Bonjour à toutes et à tous. La transition à Bordeaux a pris plus de temps que prévu. C'était un peu plus difficile que je pensais, mais Dieu sait ce qu'il fait tout le temps. Il ne se trompe jamais. Et parce qu'il y a des personnes ici que je ne connais pas, et peut-être vous ne connaissez pas moi ni ma famille, donc je me présente, je suis Michael Cole, d'accord. Ma famille est avec moi, mais on est arrivé après 23 heures hier soir. Et donc, mes garçons, j'ai deux garçons et deux filles. Les garçons sont malades et les filles, elles arrivent. Donc, nous sommes très contentes d'être avec vous. Mais pourquoi, peut-être vous vous posez une question, pourquoi cet Américain, il est là? Et la raison que je suis là, c'est lié intimement avec l'identité de l'Église. D'accord? C'est quoi une Église? C'est un groupe de personnes qui croient que Jésus a vécu dans l'histoire. Il s'est donné sur la croix pour les péchés. Après, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel et il va revenir. Et maintenant, il règne sur tout, comme le chef de tout pour l'Église. Et une Église locale, c'est une entité qui existe pour faire au moins trois choses, d'accord? Une chose, c'est verticale, on rend gloire à Dieu, jour après jour, mais surtout le dimanche. On vient pour dire: Dieu, tu es digne de notre louange. Jésus-Christ, tu es digne de notre louange. Il y a deux objectifs, deux raisons d'être qui sont horizontales. Une, c'est l'évangélisation. C'est-à-dire, on est là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde. Que le pardon est là pour vous si vous vous repentez de vos péchés et si vous croyez en Jésus. Et l'autre, c'est envers les chrétiens. Nous avons des obligations envers nous-mêmes pour nous encourager. Donc, pourquoi je suis là? Je pense que Dieu veut que je vous encourage en Jésus-Christ. Pour vous dire, jour après jour, Jésus est Dieu. Il est le Sauveur. Il vous accepte. Il vous invite à venir. Et je veux le faire en expliquant ce que dit la Bible. Ça, c'est mon rôle ultime ici. Donc, je suis là comme un serviteur de la parole de Dieu et votre serviteur aussi. Dans les jours qui viennent, je veux bien vous connaître de mieux en mieux. D'accord? Ça va prendre un peu de temps. Mais je veux passer le temps avec vous pour vous connaître, pour comprendre votre situation, votre état, et comment moi et notre famille avec Lala peuvent vous aider à grandir en Jésus-Christ. Ça, c'est notre but principal, et pourquoi nous sommes descendus vers Pessac. Juste pour vous dire où nous sommes, d'abord, je veux dire merci beaucoup pour vos prières. C'est fatigant de déménager et on sentait bien que Dieu était avec nous et nous sommes reconnaissants pour vous. Nous sommes reconnaissants aussi pour votre don financier pour nous aider avec le déménagement. C'était inattendu et j'étais étonné et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans vos cœurs pour nous aider avec le coût de déménagement. Normalement, on fait l'état des lieux demain, et on va recevoir les clés. Et mardi matin, nos affaires arrivent, si Dieu permet, et on va essayer de nous installer dès que possible pour être disponible pour vous. Vendredi, je dois monter vers Paris pour faire l'état des lieux là-bas, et je vais redescendre samedi pour être avec vous dimanche prochain. Voilà. Ça, c'est un peu notre histoire. Mais maintenant, pourquoi nous sommes venus? Nous sommes venus pour recevoir de Jésus. Donc, je vous demande de tourner dans vos Bibles en Jean, l'Évangile selon Jean, et le chapitre 17. Donc, dans le deuxième partie de notre Bible, c'est, on l'appelle la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Il y a quatre évangiles qui parlent de la vie de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on va considérer ensemble Jean 17. Nous avons lu ensemble Hébreux chapitre 9. Et Hébreux, la lettre aux Hébreux, présente Jésus comme notre grand prêtre, n'est-ce pas? Et dans l'Ancien Testament, on a l'introduction de cette idée d'un prêtre. Un prêtre, il fait quoi, non? Il offre des sacrifices, n'est-ce pas, à Dieu pour l'homme. Et ce qu'on lit dans le ce qu'on lit en hébreu, c'est que Jésus s'est offert une fois pour tout. Donc, c'est fini. Il n'y a plus de sacrifice maintenant. Dieu a reçu le sacrifice de son Fils unique, Jésus, sur la croix, et il est apaisé. Il est réconcilié envers nous. Mais un prêtre fait une autre chose. Il fait quoi? Il prie pour le peuple. Et en fait, en Hébreux chapitre 7, on lit que Jésus, le grand prêtre, intercède pour nous, c'est-à-dire il prie, il parle à Dieu le Père de notre part. Et on peut poser la question, quelle est la prière de Jésus? Quand Jésus prie, qu'est-ce qu'il dit? Et on trouve une partie de ce qu'il prie en Jean chapitre 17. Et nous allons donner notre attention au verset 6 à 10. Mais dans cette prière, Jésus commence en parlant à Dieu et en donnant des requêtes pour lui-même, versets 1 à 5. Et après, il s'arrête de demander les choses au Père et il va décrire les personnes pour lesquelles il prie. Donc, le verset 6 dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. » Et ce sont les paroles de Dieu pour nous. Ce sont les paroles de notre Sauveur Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par disant au Père, décrivant au Père les personnes pour lesquelles il prie. Et il faut poser une question. Pourquoi il commence comme ça? Parce que le Père ne connaît pas ses disciples? Non, c'est pas ça, n'est-ce pas? Parce que Dieu sait tout. Et déjà, Jésus a dit que vous êtes les amis de Dieu. Dieu vous aime lui-même. Donc, Dieu les connaît déjà. Dieu les a connus déjà. Pourquoi il décrit ses disciples au Père? Je pense qu'il a prié comme ça parce qu'il voulait instruire ses disciples par sa prière. Cela ne veut pas dire que la prière n'était pas sincère. Pas comme je prie, mais il ne parle pas vraiment au Père, il prie pour instruire. Non, c'est une façon par laquelle Jésus honore le Père, mais il instruit en même temps les disciples. Et je pense qu'on peut voir ça dans le texte, d'accord? Prenez par exemple vos Bibles, regardez vos Bibles, et regardez à la fin du chapitre 14. Et là, fin du chapitre 14, Jésus dit à ses disciples, « Levez-vous, partons d'ici. » N'est-ce pas? Vous voyez? Fin du chapitre 14. Quand il dit « partons », ça veut dire quoi? Lui et les disciples partent, n'est-ce pas? Ensemble? D'accord? Ça, c'est pas très difficile. Même moi, je peux comprendre la grammaire française ici, hein? D'accord. Maintenant, regardez le premier verset du chapitre 18. Chapitre 18, l'évangile selon Jean, et le verset 1. Et nous lisons que Jésus est allé avec ses disciples après qu'il a fait quoi? Après qu'il a prié, dit toutes ces choses, n'est-ce pas? Donc, fin chapitre 14. Tout le groupe, Jésus avec ses disciples partent ensemble. Chapitre 18, ses disciples sont avec lui après qu'il a prié. Ça veut dire quoi? Les disciples étaient là avec lui quand il a prié. Jésus n'était pas en train de prier. Il n'a pas prié au Père sans ses disciples. Donc, quand il a dit ces choses à haute voix, donc ses disciples auraient dû l'entendre, hein? N'est-ce pas? D'accord. Pourquoi il fait ça? Pour les instruire. Et on a des exemples ailleurs en Jean où Jésus parle au Père pour instruire les autres. Par exemple, Jean chapitre 11 et le verset 42. Nous lisons, Jésus dit, « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de qui? À cause de la foule qui m'entoure. Et pourquoi? Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Je pense donc que nous pouvons conclure qu'une raison Jésus décrit les personnes pour lesquelles il prie, c'est qu'il veut les instruire. Et donc, nous avons ces versets parce que Jésus veut nous instruire. Si nous sommes les disciples de Jésus, il veut qu'on connaisse quelque chose. Et c'est quoi? Il veut que nous connaissions notre identité en Jésus-Christ. J'observe de plus en plus que notre société veut nous définir. Vous êtes soit sportif, vous êtes soit intellectuel, vous êtes soit riche, pas riche, bien éduqué, pas bien éduqué, vous êtes cool. Vous êtes associé, votre identité vient des groupes de musique, des acteurs, toutes ces choses. On dit, ça c'est qui vous êtes. Mais Jésus nous dit, non, si vous êtes un disciple de moi, vous êtes quelque chose de différent. Et donc, nous allons voir cinq caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ qui vient de ce passage. On va considérer le fait qu'un disciple de Jésus est privilégié, après donné, après éclairé, réceptif. Et le cinquième, c'est un disciple appartient à Dieu et à Jésus. Donc ensemble, considérer ces choses. Un disciple de Jésus-Christ est privilégié. D'accord? Bon, je sais qu'en France, l'adjectif privilégié porte des mauvaises connotations. D'accord? Je comprends. Mais écoutez Et donnez-moi un moment pour vous expliquer ce que je veux dire. À l'Usarche, c'est nord de Paris où j'étais, j'avais une amie et j'ai dit à elle, bon, on est content avec les écoles françaises parce que nos enfants vont à l'école. Elle a tout de suite dénoncé l'éducation française en raison des étudiants qui sont privilégiés. Ça, c'était sa réaction tout de suite, immédiate. Et chaque fois qu'elle a utilisé le mot privilégié, elle a grimacé comme quelqu'un a mis un verre dans sa bouche. D'être privilégié maintenant, c'est horrible. C'est injuste. Mais on doit dire que les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ sont privilégiés. Et pourquoi je le dis? Je le dis ça. Je le dis parce que Jésus dit quoi? Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour nous, tout de suite, peut-être, nous avons cette idée. Ça, c'est injuste. Mais est-ce que ça, c'est vraiment injuste ou non? Par exemple, je peux dire que les enfants de la famille Liquois sont privilégiés. Est-ce que vous savez ça? Parce que la semaine dernière, David n'a donné rien à manger à mes enfants. Il a donné à ses enfants chaque jour, 3 fois par jour, peut-être 4 fois, s'ils ont un goûter. Hein. Mais moi, mes enfants, ils n'ont rien reçu de lui. Ils sont privilégiés. Mais ça, c'est normal, n'est-ce pas? On dit oui, parce qu'il y a un lien, c'est logique, c'est une famille. Il n'est pas responsable de donner à mes enfants à manger, ni des vêtements. Quand nous disons que les disciples de Jésus sont privilégiés, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est logique parce qu'il y a un lien entre Jésus et son peuple. Il aime son peuple, donc il prie pour son peuple. Est-ce que cela veut dire qu'il n'aime pas le monde? Parce qu'il dit, je prie pour mes disciples, mais je ne prie pas pour le monde. Non, ça sera... Une telle conclusion sera incompréhensible dans cet évangile parce que l'évangile commence avec ces mots. Le Père a aimé le monde et parce qu'il aimait le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique pour sauver. Donc, ce n'est pas que Jésus n'aime pas le monde, c'est qu'il aime il a une relation spécifique avec ses disciples. Juste comme je peux dire, je pense que la famille Liquois aime mes enfants. Mais parce qu'ils ont un lien avec ses enfants, ils donnent de la nourriture jour après jour, les vêtements, les jouets et tout cela. Jésus aime ses disciples. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous êtes privilégiés. Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, vous aime et il prie pour vous. Parfois, il est difficile d'accepter cette vérité, n'est-ce pas? Parce que dans le monde, dans les yeux du monde, nous ne sommes pas privilégiés, n'est-ce pas? Parfois, ils pensent que nous sommes peut-être comme pensaient les chefs religieux des disciples, et nous sommes sans instruction. Mon propriétaire m'a dit, il m'a informé cette semaine qu'en France, des personnes comme moi qui pensent que Dieu a créé tout, ils pensent que nous sommes des radicaux, fondamentalistes, et nous sommes peut-être dangereux. Et j'ai dit non, c'est pas ça. Et il a dit, je comprends maintenant, je sais mieux maintenant. Mais nous sommes, parfois, nous ne sommes pas privilégiés dans les yeux du monde. Ils pensent peut-être que nous sommes bêtes parce que nous croyons qu'un homme qui a vécu il y a 2000 ans, qu'il est mort, et on dit qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il vit maintenant, qu'il va revenir, ils pensent, vous êtes bête, bizarre, pourquoi? Comment vous pouvez croire ça? Mais sachez nous sommes privilégiés parce que Jésus intercède pour nous. Peut-être vous êtes comme moi, vous n'êtes pas les personnes très importantes dans le monde. Personne n'a pas marqué notre arrivée hier soir. Il n'y avait pas des grandes foules qui attendaient la famille Cole. En fait, devant le monde, nous sommes pauvres, nous ne sommes pas très importants, mais le Sauveur du monde intercède pour nous si nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Vous êtes privilégiés en Christ. Et Jésus-Christ doit rester au centre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a une deuxième chose. Un disciple de Jésus-Christ est donné aussi. Il est donné. Et quelle est la différence entre ceux qui sont du monde et un disciple de Jésus-Christ? C'est la foi. On croit en Jésus-Christ. Mais aussi, on est donné à Jésus-Christ, si nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Le verset, si, lisons avec moi le passage, d'accord? Jean chapitre 17, on commence par le verset 6, et essaye de trouver toutes les fois que Jésus dit que les disciples sont donnés, d'accord? Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient dans le monde. Et Dieu les a pris et les a donnés à Jésus. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Selon le verset 6, les disciples ne sont plus du monde parce que le Père les a donnés à Jésus. Nous aimons bien entendre le fait que nous sommes privilégiés, hein? Ça nous donne un sens d'importance, ça nous valorise un peu. Nous sommes privilégiés et on peut dire ah oui, je suis important, j'aime bien, je suis spécial, je suis privilégié par Jésus. Je suis pas comme le monde. Mais avant d'être trop gonflé, nous devons noter que nous sommes donnés à Jésus-Christ. Il y a plusieurs implications qui viennent du fait que nous sommes donnés. D'abord, cela indique que Dieu prend l'initiative dans le salut des âmes. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent que les autres qui ne sont pas les disciples de Jésus-Christ. Vous n'êtes plus spirituel que les autres. Vous n'êtes plus rien. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a pris l'initiative et il vous a donné à Jésus-Christ et vous avez reçu par la foi le message de l'Évangile. Ça, c'est la différence entre nous et tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous ne sommes pas mieux. Nous sommes sauvés. Nous sommes donnés. Ça nous donne une bonne perspective de notre position. L'homme a bien la responsabilité de croire en Jésus, mais c'est Dieu qui donne les disciples à Jésus. Le fait que nous sommes donnés à Jésus nous déplace du centre aussi. C'est-à-dire, un cadeau est moins important que la personne qui le reçoit, n'est-ce pas? Quand vous offrez un cadeau à un ami, le cadeau n'est pas vraiment important, c'est la personne qui le reçoit qui est important, n'est-ce pas? Même si vous donnez un Porsche, hein, une voiture très très coûteuse, ça veut dire quoi? Que le Porsche, la voiture est très important? Non, la personne qui le reçoit est au centre. Il reçoit toute l'attention parce que Le cadeau valorise la personne qui le reçoit. C'est vrai? Oui. Donc, si nous sommes donnés à Jésus, ça veut dire quoi? Que Jésus est au centre. Ça, c'est difficile à vivre, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis tenté jour après jour de vivre comme moi, je suis au centre. La vie est difficile et je veux que toutes les choses s'arrangent pour moi. Mais en fait, c'est pas ça. Jésus, le Christ, est au centre. Et si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous êtes donné à Jésus parce qu'il mérite votre louange. Il mérite votre vie fidèle donnée à lui. Parce que vous aimez cet homme qui est venu pour vous sauver. Jésus est au centre. Et ça, c'est un exemple, ça, c'est une ramification, une conséquence du fait que nous sommes donnés. Et une autre implication, c'est que nous servons un but. Si on prend, par exemple, un cadeau et on donne un cadeau, pourquoi on donne les cadeaux? Parce que nous voulons communiquer quelque chose, n'est-ce pas? Parfois, avec un cadeau, nous voulons encourager quelqu'un. Juste un petit truc pour vous encourager. Parfois, c'est pour démontrer notre gratitude, notre amour pour cette personne. Si nous sommes donnés, quel est le but du Père en nous donnant à Jésus? Et on le trouve à la fin du verset 10, où Jésus dit, « Je suis glorifié en eux. » Un disciple de Jésus a un privilège profond. Il est privilégié parce qu'il peut glorifier Jésus. Savez-vous, si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, que vous êtes un disciple pour rendre gloire à Jésus. Votre vie existe pour glorifier Jésus. Quel privilège, hein? Quel privilège. On peut donner gloire à Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, jour après jour après jour. Et ça, c'est une implication du fait que nous sommes donnés. Vous avez, et moi, nous avons un privilège. Nous pouvons vivre pour lui. La troisième chose, on est privilégié, on est donné, et troisièmement, on est éclairé. D'accord? On est éclairé. Et ce n'est pas arrogant de dire que nous sommes éclairés, parce que nous confessons que nous n'étions pas éclairés. On a reçu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a reçu? Jésus commence cette section de sa prière au verset 6 en disant qu'il a fait connaître ton nom. Au verset 8, il dit qu'il leur a donné les paroles du Père. Et si vous êtes un disciple de Jésus, vous êtes une personne qui a été éclairée par Jésus. Jean commence son évangile en disant que le Fils unique fait connaître le Père. Ça, c'est chapitre 1, le verset 18. Jésus est un prophète. Il vient pour nous faire connaître le Père. En Jean 14, le verset 9, Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu qui ? Le Père. » Si vous voulez connaître le Père, Dieu le Père, vous pouvez le connaître à travers Jésus qui se trouve dans la Bible. D'accord? Ça, c'est notre façon de connaître Dieu. Cette connaissance n'est pas naturelle pour l'homme chuté. Rappelons-nous que le monde dans ce contexte consistait des juifs très religieux qui connaissaient bien l'Ancien Testament de la Bible. Mais c'est à eux que Jésus a dit ces mots accablants. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Imaginez ça. Les juifs qui pensaient, qui se considéraient le peuple de Dieu qui ont reçu les oracles de Dieu. Jésus leur a dit, vous ne connaissez pas Dieu. Ça, c'était notre état sans Dieu. Mais quand Jésus est venu, il nous a éclairés pour qu'on puisse comprendre ce qu'il est. Et cela bien, s'accorde bien avec le chapitre 1, le verset 10. La parole était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Un disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui a reçu grâce à Jésus une connaissance du Père. Mais comment? Comment pouvez-vous recevoir une connaissance du Père? C'est par la parole de Jésus. Un disciple de Jésus est une personne éclairée par la parole de Jésus. Au verset 6, Jean 17, le verset 6, Jésus dit qu'un disciple est quelqu'un qui garde la parole de Dieu. Il le garde comme ça. Au verset 8, il mentionne encore une fois le fait qu'il leur a donné les paroles de Dieu. Qu'on ne s'y trompe pas, un disciple de Jésus-Christ est une personne attachée à la parole de Christ. Qui se trouve où? Dans la Bible. C'est-à-dire, un disciple de Jésus-Christ est attaché à la Bible, qui est la parole de Jésus. Et quatrièmement, d'accord? Un disciple est quoi? Privilégié, donné, éclairé et réceptif. D'accord? Réceptif. Notons le point que Jésus met sur le fait qu'un disciple de Jésus est une personne qui répond à la parole de Dieu. Au verset 6, d'accord? Chapitre 17, le verset 6. Les disciples sont des personnes qui gardent la parole de Dieu. Au verset 8, nous lisons que les disciples ont reçu les paroles de Dieu. Il faut aller plus loin. Constatons ce que le mot « recevoir » implique. Jésus répète deux fois que les disciples connaissent vraiment que Jésus vient du Père. Ça, c'est le verset 7 et 8. Et au verset 8, le verbe « croire » est mis en parallèle avec le verbe « connaître ». Le verbe « garder » du verset 6 ajoute une certaine idée de fermeté. Fermeté. Donc, tous ces verbes « garder »,« recevoir » et « croire » nous communique l'idée qu'un disciple de Jésus est quelqu'un qui accepte la vérité de ce que Jésus a affirmé. D'accord? La question pour nous ce matin, est-ce que nous acceptons ce que la Bible dit par rapport à Jésus? Chaque jour de la semaine, quelle est notre relation avec la parole de Jésus? Est-ce qu'on le lit? Est-ce qu'on la consulte? Est-ce qu'on le médite? Parce qu'un disciple de Jésus-Christ est une personne qui est donnée à la parole de Jésus. Il est réceptif, il reçoit. Elle reçoit ce que dit Jésus à travers la Bible. Parce que Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ailleurs, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On est libéré par la vérité qui vient de Jésus-Christ. Et cette caractéristique a deux tranches. D'un côté, un disciple de Christ est privilégié d'avoir la parole de Dieu. Il y a des millions de personnes qui pensent avoir la parole de Dieu, mais qui suivent en réalité la fausseté. Des millions de personnes. Mais nous avons la parole de Jésus-Christ. Ça, c'est un privilège pour nous. Mais l'autre tranche, c'est qu'est-ce que vous faites avec ce privilège? Qu'est-ce que vous faites avec la parole de Dieu? Et cinquièmement, d'accord? On est privilégié, on est donné, on est quoi? Éclairé, on est réceptif si on est un disciple de Jésus-Christ. Et cinquièmement, on appartient au Père. Avant, j'ai prêché ce message à Sarcelles où j'étais. Et j'ai dit, un disciple de Christ est possédé. Mais ça ne marche pas vraiment en français, donc je l'ai changé après. Et je remercie en avance pour votre patience avec le français. Hein. C'est une langue précise. Mais un disciple de Jésus-Christ appartient au Père. Notons combien de fois Jésus dit que ses disciples sont au Père. Au verset 6, Jésus dit que les disciples étaient au Père qui les a donnés à Jésus. Au verset 9, Jésus dit à nouveau, « Ils sont à toi. » Au verset 10, Jésus répète, « Pour une troisième fois, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Jésus fait une distinction profonde entre le monde et ceux qui lui sont donnés du milieu du monde. Dans un sens, bien sûr, chaque personne du monde est possédée ou appartient à Dieu, le Créateur. Tout le monde est obligé de le rendre de la gloire. Chaque personne doit l'obéir. Mais dans ces versets, nous voyons une relation spéciale entre le Père, Jésus, et un disciple de Jésus. Il y a un sentiment d'appartenance ici. Et tout le monde veut appartenir, n'est-ce pas? On cherche des petits groupes pour appartenir. Nous sommes pour, parce que j'étais à Paris, nous sommes pour le PSG. Wouhou! On a tout de suite une connexion, un lien. Peut-être ici, on aime Bordeaux, mais peut-être pas. C'est pas l'année pour eux. Mais on cherche. Parfois, c'est un groupe de musique. Parfois, c'est notre vêtement. J'appartiens à ce groupe-là qui porte un certain vêtement. On veut appartenir. Jésus vous dit, si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, moi, vous appartenez au Père et à moi. Vous n'avez pas besoin de chercher un sentiment d'appartenance par les vêtements, par la musique, par l'art, par l'espoir. Non, c'est en Jésus-Christ que vous appartenez au Père. Si nous prenons l'image que Jésus utilise plus tôt dans cet évangile, un disciple qui connaît son berger et qui est connu par son berger, quelle est la signification d'être au Père et d'être à Jésus? Dans quel sens est un disciple au Père? Mais les personnes non croyantes ne sont pas au Père, même s'ils sont créés par Dieu. La réponse de cette question réside dans l'œuvre de Dieu sur la croix. Il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 6. Si vous appartenez au Père et à Jésus, c'est grâce à ce que Dieu a accompli sur la croix pour vous. La ramification de cette œuvre, c'est que vous n'êtes plus des ennemis de Dieu. Et je veux m'arrêter pour un moment. Il y a dans cette salle deux groupes de personnes. Ce n'est pas les Américains, les Français. Les étrangers, les Français. Ce n'est pas les hommes, les femmes. Ce n'est pas les riches, les pauvres. Ce n'est pas les personnes plus intelligentes, les personnes moins intelligentes. Il y a deux groupes de personnes. Les disciples de Jésus-Christ et ceux qui ne sont pas les disciples de Jésus-Christ. Et ce que Jésus dit, c'est que si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous appartenez au Père. C'est-à-dire, il est votre Père. Il vous aime. Il va vous sauver. Vous allez passer l'éternité avec lui au paradis, sur la terre. Mais si vous n'appartenez pas à Jésus, vous n'êtes pas un chrétien, vous n'êtes pas un disciple de Jésus-Christ, vous n'avez pas cette relation spéciale avec le Père. Et ce qui reste pour vous, si vous continuez jusqu'à la fin de dire non, Je ne veux pas être un disciple de Jésus-Christ. Ce qui est là pour vous, c'est la punition, le jugement. Et en fait, vous aurez ce que vous voulez. Vous ne voulez pas avoir Dieu, d'accord. Pour l'éternité, vous ne voulez pas avoir Dieu. Vous serez envoyé loin de Dieu dans la punition que la Bible dit, c'est l'enfer. Mais Jésus est venu pour vous dire, la bonne nouvelle c'est, même si vous étiez jusqu'à ce moment-là un rebelle contre Dieu, Jésus vous dit, si vous vous repentez de votre vie à part de Dieu, votre rébellion contre Dieu, si vous croyez que Jésus est vraiment venu pour vous sauver, vous aurez la vie éternelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Tous vos péchés seront effacés, pardonnés en Jésus-Christ. Et vous avez cet espoir. Mais sans Jésus, il faut être clair, hors de Jésus, vous n'appartenez pas au Père. Je ne veux pas être méchant. En fait, je suis un peu comme un médecin qui dit « Vous avez du cancer. » Je dois le dire. Ce n'est pas la bonne nouvelle, mais je dois le dire. Mais moi, je le dis parce que je sais qu'il y a un remède. Et Jésus est le remède. Et en lui, vous pouvez avoir la vie éternelle. Donc, vous appartenez au Père. Et je veux parler maintenant aux chrétiens. Parce que c'est difficile parfois de ressentir l'idée qu'on n'appartient pas, n'est-ce pas? Peut-être vous êtes au bureau, hein, et tout le monde sont ensemble, mais vous êtes un peu à côté parce que vous n'êtes pas comme les autres. Ça blesse parfois, hein. Peut-être vous êtes une étudiant à l'université. Tous vos copains, copines, ils font les choses et vous pouvez pas aller avec eux. Et ils parlent des choses, vous n'êtes pas vraiment avec eux. Et c'est clair, vous êtes différents. Même à l'école élémentaire, collège, lycée, hein, vous n'êtes pas comme les autres. Et ça, c'est difficile, n'est-ce pas? Parce qu'on veut appartenir. Sachez, si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, même si vous êtes un enfant, vous appartenez. Vous appartenez au Père. Et ça vaut beaucoup mieux qu'appartenir à un groupe de personnes de ce monde. Si vous êtes venu ce matin, vous êtes un disciple de Jésus-Christ. Vous êtes privilégié parce que Jésus, le Seigneur de tout, intercède pour vous. Vous êtes donné à Jésus par le Père parce qu'il vous aime. Vous êtes éclairé. Vous n'êtes pas plus intelligent, mais vous avez reçu du Père l'illumination de Jésus-Christ par sa grâce. Vous êtes privilégié, donné, éclairé, réceptif. Vous lisez, vous acceptez ce que dit la Bible. Pas parfaitement, mais en général, ça c'est votre esprit. Et cinquièmement, vous appartenez au Père. Mes frères et sœurs, hein, vous êtes bénis en Jésus-Christ. Et le désir de Jésus, le désir du Père, et mon désir, le désir de là, c'est que vous soyez fixés sur une seule personne, la personne Jésus. Qu'il soit au centre de votre vie. Et s'il est au centre de votre vie, vous serez béni et finalement sauvé de tous vos péchés. Prions ensemble. Père Céleste, c'est avec joie, c'est avec reconnaissance que nous disons ce matin merci pour Jésus-Christ qui est venu et en qui nous avons tous ces privilèges. Nous voulons qu'il soit élevé devant nos yeux, que nos cœurs soient comblés d'amour pour lui. Mais pour ceux qui sont venus ce matin, ils ne sont pas chrétiens. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qui est un disciple de Jésus. Peut-être qu'ils ne comprennent pas encore ce qu'il faut faire pour être un disciple de Jésus. Nous prions que tu puisses faire ton œuvre dans leur cœur. Parce que Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Accomplis ton œuvre dans nos cœurs, nous prions. Amen.